Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. En 2026, poursuivons donc nos habitudes et débutons cette chronique numéro 18, j'y arriverai, on est en 2026, pour la chronique 18. Par des minutes, remue méninges en allant voir les processus induits par la marche chez les autres, les écrivains ou les philosophes. Aujourd'hui, Virginia Woolf, 1882-1941, une écrivaine moderniste britannique dont le patronyme évoque sans doute pour certains le titre d'une pièce de 1962 de l'américain Edward Albee, dont fut ensuite tiré le fameux film éponyme « Qui a peur de Virginia Woolf ?» Non, Virginia Woolf était une écrivaine, non seulement connue pour ses œuvres littéraires, mais aussi pour son amour de la marche. Pour elle, se promener représentait une manière d'explorer le monde qui l'entourait et d'approfondir ses réflexions. Woolf trouvait souvent l'inspiration dans ses promenades. Pour elle, marcher libérait l'esprit et permettait des pensées plus profondes et créatives. Ses récits évoquent souvent des paysages et des scènes qu'elle a observées lors de ses balades. Pour Woolf, la marche était aussi un moyen d'échapper à la pression sociale et aux contraintes de la vie. Elle se promenait dans Londres, prenant des chemins moins connus et trouvant du réconfort dans la solitude que cela lui offrait. Œuvrant pour la condition féminine, dans son essai « Une chambre à soi », Woolf utilise la marche comme métaphore de la liberté. Elle soulignait déjà que les femmes devraient avoir la possibilité de se déplacer librement dans l'espace public, ce qui symbolise leur indépendance et leur autonomie. Dans ses romans, Woolf utilise le mouvement pour symboliser les pensées et les émotions en évolution. Le mouvement physique reflète l'état d'esprit de ses personnages. En somme, pour Virginia Woolf, la marche était plus qu'une simple activité physique, c'était un mode d'exploration, de contemplation et de célébration de la vie.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Nouvelle année, évolution de notre chronique. J'arrête de vous saturer avec des conseils pour offrir une nouvelle rubrique sur l'anthropologie de la marche. Je marche, vous marchez, on marche, et ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas un atavisme à proprement parler, mais plus une situation qui perdure depuis des centaines de milliers d'années. De façon succincte, je vais évoquer le tout début où s'immisçant dans la paléontologie, un domaine où l'on a toujours à cœur de découvrir le début du commencement. C'est le mythe de l'ancêtre commun qui semble repousser à chaque nouvelle découverte. Plus l'on poursuit les analyses et les découvertes, plus on repousse les dates du commencement. Pour simplifier et éviter de se perdre avec les multiples branches d'homonines, dont certaines remontent à près de 7 millions d'années, mais il n'est pas certain qu'elles fussent tous bipèdes. Leur mode de locomotion, à ce jour, est non résolu. Donc, nous allons nous limiter à regarder du côté de notre plus proche ancêtre, Homo sapiens. Apparu en Afrique il y a environ 200 à 300 000 ans. La fourchette est large. Le drame de ces datations, c'est que nos ancêtres se complaisaient et vivaient dans une forêt tropicale humide, ce qui n'est pas un milieu favorable, ni pour la conservation des fossiles, ni pour leur découverte. Sapiens évolue à partir d'hominidés tels que Homo habilis, l'Homo erectus, des fossiles comme ceux de l'Homo Néandertalensis, montre la diversité des hominidés au cours de cette période. Donc, ces premiers bipèdes étaient des chasseurs-cueilleurs vivant en groupe et utilisant des outils rudimentaires. Mais c'est entre 60 000 et 100 000 ans que des groupes d'Homo sapiens ont commencé à migrer hors d'Afrique vers d'autres continents, notamment l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Pour l'Europe et l'Asie, les premiers Homo sapiens sont arrivés en passant par le Moyen-Orient. En Europe, ils ont interagi avec les Néandertaliens et certains croisements ont eu lieu. L'adoption de pratiques agricoles a suivi la période de chasse-cueillette. Pour l'Océanie, les premiers habitants de l'Australie, les aborigènes, sont arrivés il y a environ 50 000 ans, transportant avec eux des connaissances sur le suivi et l'utilisation de la terre. Quant à l'Amérique, la migration a eu lieu principalement via le pont terrestre de Bering pendant la dernière période glaciaire, il y a environ 15 à 30 000 ans. Les populations ont ensuite évolué en diverses cultures indigènes à travers le continent, développant des sociétés variées et complexes. La conquête, elle, des îles Pacifiques, connues sous le nom de Polynésiens, ont entrepris des voyages, eux, maritimes audacieux pour coloniser, de nombreuses îles comme Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques. Mais là, nous sommes dans des domaines beaucoup plus récents, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce fut donc une véritable occupation de notre planète qui a quand même pris des dizaines de milliers d'années. À mesure que les groupes humains se sont sédentarisés, des civilisations complexes se sont développées comme les Égyptiens en Afrique, les Mésopotamiens en Asie, les Incas et les Aztèques en Amérique du Sud. De plus, les routes commerciales qui se sont constituées petit à petit et les migrations ont favorisé les échanges culturels entre les différentes civilisations, façonnant ainsi les langues, les religions et les technologies. Voilà pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. L'histoire humaine est marquée donc par ses migrations, ses adaptations et ses interactions complexes. C'est donc la marche, cette pratique fondamentale, qui a joué un rôle essentiel dans le développement des civilisations, de la culture et la vie quotidienne.
Vous êtes bien sur Radio FM Plus et vous écoutez Je marche, donc je suis. I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Pour mettre un terme à cette première partie, nous allons continuer à marcher, mais en chantant. Aujourd'hui, une chanson de Francis Cabrel, Les chemins de traverse. C'est le nom de la chanson et de l'album sorti en 1979. Dans cette chanson, Cabrel décrit les voies moins conventionnelles de la vie, évoquant des choix personnels et des réflexions sur le temps qui passe. L'auteur aborde des thèmes tels que la nostalgie, les souvenirs et les détours que l'on prend en cours de route. Il parle de l'importance d'emprunter des chemins moins fréquentés en cherchant une forme de liberté et d'authenticité. Les chemins de traverse deviennent des symboles de l'exploration intérieure et de la découverte de soi. La chanson est souvent appréciée pour sa poésie et son aspect introspectif, invitant l'auditeur à réfléchir à sa propre vie et à ses choix. Cabrel réussit à créer une atmosphère mélodieuse et émotive où les mots et la musique se mêlent harmonieusement pour transmettre un message profond sur la quête des véritables valeurs.
Moi je marchais les yeux par terre, toi t'avais toujours le nez en l'air, et c'est comme ça qu'on s'est connus. On avait chacun sa guitare, on n'était pas loin d'une gare, c'est le hasard qui l'a voulu. Et tu m'as dit quand leurs ailes sont mortes, les papillons vont où le vent les porte. On a pris le premier chemin venu. Et quand la nuit est tombée sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville. On n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. On a traversé les semaines comme de vraies fêtes foraines, sans même penser au retour. On s'est perdu dans les nuages comme les oiseaux de passage, à suivre les filles d'un jour. Et pour ne pas que des fous nous renversent, on prenait les chemins de traverse, même s'ils ne sont jamais les plus courts. Et quand la nuit tombait sur la voie ferrée, on était bien loin de la ville. On n'entendait que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quelquefois je me souviens de ceux qui nous ont lâché les chiens et jeté des pierres au visage. Ils n'ont rien empêché quand même, puisque le seul métier qu'on aime, c'est la bohème et le voyage. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. On n'entendra que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile. Et quand la nuit va tomber sur la voie ferrée, on sera bien loin de la ville. On n'entendra que des notes et le bruit de nos bottes sous la pleine lune immobile.
Robert Malric, Radio FM+, Je marche donc je suis, deuxième partie. Je marche donc je suis, c'est prétentieux, mais notre ambulo ergo sum vient enrichir le célèbre cogito de René Descartes. Je pense donc je suis, pour souligner l'importance de l'action physique et de l'existence corporelle dans la définition de soi. Vous avez l'habitude que je vous rappelle toutes les caractéristiques positives de la randonnée rapportées par les écrivains, les philosophes et maintenant les paroliers et les chanteurs. Pour débuter cette nouvelle année, je vais donc me livrer à un inventaire des bienfaits que l'on peut retirer des marches et des randonnées. Pour commencer, inutile de rappeler que la marche est une activité physique, simple et accessible, et qui offre de nombreux avantages pour la santé physique. En plein air, le cœur travaille, la circulation sanguine s'améliore et nous renforçons notre endurance. Donc, la marche régulière aide à renforcer le cœur, à améliorer la circulation sanguine et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Imaginez-vous sur un sentier. Le cœur battant en train de booster votre endurance et de tonifier vos muscles des jambes et des fessiers. Sans oublier que cela peut également aider à gérer votre poids. Saviez-vous que même une simple randonnée peut brûler des calories? Selon le dénivelé et la distance, vous pouvez facilement dépasser les 300 calories par heure. La marche est un exercice de mise en charge qui peut aider à augmenter la densité osseuse et prévenir l'ostéoporose. Oui, marcher aide à lutter contre l'ostéoporose et maintient nos os en bonne santé. La marche sollicite plusieurs groupes musculaires, notamment les jambes, les hanches et le tronc, ce qui contribue à renforcer et à tonifier ces muscles. Marcher régulièrement aide à maintenir une bonne posture et un meilleur équilibre, réduisant ainsi le risque de chute. Et pour ceux d'entre vous qui aiment les défis, marcher sur des terrains variés améliore votre équilibre et votre flexibilité. En plus, grâce à l'activité physique. Notre cerveau libère des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être, qui procurent une sensation immédiate de calme et de relaxation, qui peuvent améliorer l'humeur et réduire le stress. La marche stimule le système digestif, ce qui peut contribuer à une meilleure digestion et un métabolisme plus efficace. Une activité physique régulière, comme la marche, renforce le système immunitaire, ce qui peut aider à prévenir certaines maladies. Et n'oublions pas l'amélioration de la qualité du sommeil. L'activité physique régulière favorise le meilleur sommeil en réduisant l'anxiété et en améliorant la qualité du sommeil. Maintenant, parlons de la dimension psychologique de la randonnée. La nature a un effet apaisant sur le mental. La marche permet de relâcher les tensions et de diminuer les niveaux de stress en favorisant la relaxation et en évitant l'accumulation de stress chronique. Elle permet donc ainsi une amélioration de l'humeur en stimulant la libération d'endorphines, souvent appelée hormone du bonheur, ce qui peut conduire à une élévation de l'humeur et à une sensation de bien-être. De la même façon, la marche régulière peut aider à réduire les symptômes d'anxiété et à améliorer la résilience face aux situations stressantes grâce à l'activation du système nerveux parasympathique. Marcher dans des paysages inspirants libère l'esprit et ouvre à de nouvelles idées. La démonstration en est apportée par les citations que j'inclus systématiquement dans nos chroniques, de Nietzsche à Giono, de Proust à Stendhal par exemple, pour qui marcher n'était pas seulement un moyen de se déplacer, mais une façon de s'imprégner des paysages, des impressions et des émotions qui nous environnent. Pour eux, la marche ouvrait l'esprit à la découverte, favorisant des réflexions profondes et des moments d'émerveillement qui peuvent stimuler la créativité et améliorer la capacité à résoudre des problèmes en permettant de penser plus librement. Elle peut aussi, dans certains cas, renforcer la confiance en soi et l'estime de soi en atteignant des objectifs de condition physique. Et bien sûr, elle peut favoriser la méditation et la pleine conscience. Marcher seul peut être une forme de méditation active, permettant de se concentrer sur le moment présent, d'observer son environnement et de cultiver la pleine conscience. Par contre, marcher en groupe peut renforcer des liens sociaux. Marcher avec d'autres, que ce soit des amis ou des groupes de marche, peut favoriser des interactions sociales et créer un sentiment de communauté, réduisant ainsi l'isolement social. Pour terminer, on notera que la marche peut améliorer la qualité du sommeil, ce qui est crucial pour le bien-être mental. Des études ont même montré que l'activité physique régulière peut réduire les symptômes de la dépression et améliorer la santé mentale globale. En résumé, la marche joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé mentale en favorisant le bien-être émotionnel et psychologique. La marche, c'est une excellente manière de découvrir et d'apprécier la richesse des milieux naturels, de la faune, de la flore et du patrimoine culturel. La marche permet d'explorer des habitats variés, tels que forêts, prairies, zones humides et montagnes. Chaque écosystème abrite une biodiversité unique où l'on peut observer différentes espèces de plantes et d'animaux. En marchant tranquillement, il est possible d'observer des animaux dans leur habitat naturel, que ce soit des oiseaux chantants, des mammifères se déplaçant ou des insectes volants. L'observation silencieuse et respectueuse peut conduire à des rencontres mémorables. Un bouquetin au loin, un renard furtif ou un lapin en cavale. Ces rencontres sont non seulement enrichissantes, mais elles nous rappellent aussi l'importance de la biodiversité. Les sentiers de randonnée traversent souvent différents biomes, permettant d'observer une variété d'espèces végétales allant des fleurs sauvages aux arbres majestueux. Chaque écosystème a sa propre diversité. De nombreuses espèces de plantes rencontrées lors des randonnées possèdent des propriétés médicinales. Apprendre à les connaître peut enrichir l'expérience en offrant des perspectives sur des usages traditionnels. En apprenant à identifier les plantes, on développe une appréciation pour la botanique locale. Mais bien sûr, il en est des plantes comme des champignons. Il faut avoir une parfaite connaissance des espèces pour les consommer. Ensuite, selon l'environnement, le ramassage est interdit. Et s'il n'y a pas d'interdiction, veillez à ne pas porter atteinte aux spécimens concernés. Il ne faut surtout pas arracher les plantes, mais toujours les cueillir avec précaution. Des zones comme les prairies, les zones humides ou les montagnes peuvent être fragiles. La randonnée responsable permet d'apprécier la beauté tout en minimisant l'impact sur ses habitants. La faune, la flore et bien sûr il y a l'immersion dans le patrimoine. De nombreux sentiers de marche traversent des sites historiques ou culturels tels que des monuments, des villages anciens ou des ruines. Imaginez-vous marcher le long de la Via Domitia ou découvrir un château ou une ruine d'un passé prestigieux. Ces sites nous racontent des histoires et nous connectent à notre passé. La randonnée nous plonge dans un voyage à travers le temps. Cela permet de comprendre l'héritage culturel des régions visitées. Il y a aussi les chemins thématiques, spécialement conçus pour mettre en valeur des aspects particuliers du patrimoine, comme les routes des vins, les chemins de pèlerinage ou les sentiers des guerriers, offrant ainsi une expérience riche et éducative. Mais il y a aussi les rencontres avec les acteurs locaux. En marchant dans des zones rurales ou semi-rurales, il est possible de rencontrer des agriculteurs, des artisans ou des habitants qui partagent leur savoir-faire et leur culture enrichissante, ainsi venant enrichir ainsi votre expérience. Dans ces conditions, la marche offre l'occasion d'apprendre sur l'écologie, la conservation de la nature et les enjeux environnementaux en se connectant directement avec la nature. Pour conclure ce domaine, la marche est un excellent moyen de découvrir la richesse des milieux naturels et du patrimoine. Elle favorise un lien profond entre les individus et leur environnement, tout en promouvant un mode de vie actif et respectueux de la nature. Que ce soit en explorant des sentiers côtiers, des parcs nationaux ou en vagabondant dans des villages historiques, chaque pas en plein air est une occasion d'apprendre et de s'enrichir. La randonnée n'est pas seulement une activité sportive et d'introspection, c'est aussi une occasion d'explorer notre patrimoine. La marche est aussi une activité idéale pour explorer et découvrir la géologie d'un territoire. Elle permet d'observer les formations rocheuses, les strates géologiques et les paysages qui portent les marques de phénomènes géologiques. En marchant sur des sentiers géologiques, et dans l'Hérault, ils sont très nombreux, les randonneurs peuvent admirer la variété de roches, de minéraux, révélateurs de l'histoire géologique de la région. Cela inclut les roches sédimentaires, volcaniques et métamorphiques. Enfin, les strates visibles dans les collines, les falaises ou le lit des rivières fournissent des indications sur l'âge des roches et la manière dont elles se sont formées au fil des éons. Dans certains endroits, il est possible de trouver des fossiles, témoins de la vie passée sur Terre. Les roches, les sentiers de marche, peuvent souvent passer par des zones riches en fossiles, permettant d'en apprendre davantage sur des espèces anciennes. Dans les zones sismiques ou sur des failles géologiques, on peut aussi avoir un aperçu des mouvements tectoniques de la Terre. Que diriez-vous d'une petite pause face à des structures telles que des failles, des plis et des strates, qui révèlent en fait des informations sur les forces tectoniques qu'il y a eu et les processus qui ont façonné cette Terre au fil des siècles? Nos totems du Pic Saint-Loup et de l'Ortis en sont deux témoignages différents. Dans certaines régions, on peut explorer des formes karstiques comprenant des grottes, des dolines et d'autres structures géologiques uniques, des roches sédimentaires ou granites. En passant par le calcaire et le basalte, chaque formation raconte une partie de l'histoire de la Terre. Chaque randonnée peut devenir ainsi une exploration géologique fascinante. Avant de conclure, je voudrais rajouter un petit conseil qui, à mon avis, contribue lui aussi à redonner à la randonnée toutes ses lettres de noblesse. Car si la randonnée, c'est mettre un pied devant l'autre, c'est aussi, on vient de le voir, beaucoup plus. La rando, c'est un voyage, certes limité dans le temps et dans un environnement circonscrit, mais ça se prépare pour en tirer un maximum d'intérêt. C'est cela, vivre pleinement une rando. Laisser ses pieds jouer leur partition, c'est secondaire, mais garder la tête aux aguets, prête à faire face à toutes les découvertes. Et c'est là que le travail préparatoire, par exemple sur une carte IGN, vous fournira matière à exalter votre passion. Et je rajouterai à ce document une carte Infoterre du BRGM. Celles-là sont à 1/50 millième. 1 cm pour 500 mètres, mais elles vous feront découvrir ce sur quoi vos yeux se posent et ce sur quoi vos pieds reposent. Aujourd'hui, nous avons donc exploré les multiples bienfaits de la marche, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être mental, social et même écologique. On a évoqué les bienfaits physiques et les bienfaits mentaux, on a parlé des interactions sociales, des découvertes, des apprentissages et de l'exploration de la nature et du patrimoine. La marche est donc un moyen fantastique de découvrir des paysages, d'apprendre sur la biodiversité et d'apprécier le patrimoine culturel et géologique des régions. En conclusion, la marche est bien plus qu'un simple moyen de se déplacer, c'est une pratique bénéfique. Alors, chaussez vos chaussures, sortez et découvrez par vous-même tous les bienfaits que la marche peut nous apporter. Merci de m'avoir écouté. Radio FM+, notre chronique hebdomadaire numéro 18 se termine. Pour retrouver nos émissions, allez donc sur notre site www.radiofmplus.org. Vous pouvez récupérer le podcast de cette émission et des précédentes d'ailleurs, soit en allant directement dans Programme, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique Ici et maintenant. Bien sûr, vous pouvez interagir sur ce podcast ou directement par mail à contact@radiofmplus.org. Nous nous quittons à présent sur Gloria. C'est pas le Gloria. Nous nous quittons à présent sur un air, le Gloria. C'est pas celui d'Umberto Tozzi, non. C'est celui de Van Morrison, interprété par The Zem. Gloria. You know, she comes around just about 5'4" from her head to the ground. You know, she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G.
Upon my door, and then she comes to my room.